pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Comme de nombreux pays en développement, le Liban doit affronter le casse-tête de la gestion de ses déchets, de plus en plus nombreux. Installer des décharges au bord de la mer n'est pas forcément la meilleure idée. Marion Guénard nous emmènera aux abords de Beyrouth dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chaque jour, nous consommons Internet sans même y réfléchir, grâce à nos forfaits illimités, téléchargements, streaming, échange de données, nous ne comptons pas nos clics. Pourtant, si nos données sont virtuelles, l'énergie que nous consommons, elle, est bien réelle. Nos mails, nos photos, les informations de nos profils Facebook, nos tweets, tout cela est stocké dans des data centers, sorte d'usines d'Internet, faites de millions d'ordinateurs qui, pour fonctionner, ont besoin d'électricité. Chaque heure, plus de 10 milliards de mails sont échangés à travers le monde, c'est l'équivalent énergétique de 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Les plus gros usagers sont sans doute les adolescents qui, entre les ordinateurs, les tablettes et surtout les smartphones, passent de plus en plus de temps sur la toile. Caroline Langlois a rencontré trois collégiens dans un bistrot du 18e arrondissement à Paris, en compagnie de Philippe Recoupé, président du forum Athéna et spécialiste de la question de l'écologie d'Internet, afin de discuter de leurs usages du web et de leurs impacts.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Alexandre.
Et tu as quel âge ?
9 ans.
Je m'appelle Yunmila et j'ai 14 ans.
Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 15 ans et j'étudie au collège Yvonne Le Tac.
Bonjour, je suis Philippe Recoupé. Je suis président d'une association qui s'appelle Forum Athéna, qui s'occupe du monde du numérique, de l'Internet.
Est-ce que vous pensez qu'Internet, ça pollue déjà ?
Bah, si c'est par rapport à la pollution que produit l'électricité consommée par les ordinateurs, ça pollue pas où on est, ça pollue plus loin. C'est compliqué. Voilà.
Ouais. Mais après, ça peut aussi être... J'hésitais en fait, c'était soit ça, soit c'était la pollution, comme tous les virus, tous les genres de choses en fait, qu'on ouvre inconsciemment quand on est sur tel ou tel site, donc une espèce de pollution en fait de l'ordinateur.
Par exemple, les courriers indésirables, les spams, les pop-up, les choses comme ça.
Ouais,
c'est
voilà.
Ça que tu penses
ouais.
Les pubs aussi.
Ça pollue l'Internet.
C'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison. C'est tout ça. C'est pas seulement la consommation électrique. C'est vrai que quand on affiche une pub et qu'on n'a pas envie de cette pub, elle consomme de l'électricité. Mais c'est une consommation d'électricité complètement gaspillée, inutile, indésirable.
Racontez-moi, c'est quoi votre consommation d'Internet ? À quel moment dans la journée vous vous connectez ? Sur quoi ? Sur des tablettes, sur des ordinateurs, sur vos téléphones ?
Je suis malheureusement un peu le cliché de l'adolescente qui reste tout le temps sur Internet. Parce qu'en fait, j'ai un iPod. Du coup, le matin, dès que je me réveille, c'est limite, je suis un peu dessus. Parce que je suis une fille qui est en même temps sur un peu tous les réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, Snapchat. Donc, comme je viens des comptes, il faut que j'aille les vérifier, que je vois si on a aimé des trucs, tout ça. Donc, je passe un peu ma vie dessus. Et du coup, bah moi, je dirais que je passe, je sais pas, 5 heures quand j'ai école et 7 heures quand j'ai pas école. C'est une horreur.
Alors le cloud, ça veut dire quoi les filles, le cloud ? C'est quoi le cloud ?
C'est là où habite Siri. Demandez Thibert, il dit qu'il habite dans le cloud.
C'est qui Siri ?
C'est la petite voix électronique qu'on peut avoir sur nos téléphones maintenant, sur nos tablettes, tout ça, qu'on peut leur demander pour téléphoner à quelqu'un, même pour lui parler, juste lui parler, ça peut être rigolo des fois, il vous fait des blagues ou genre de choses, c'est pas drôle. Mais...
Tu veux essayer ? Sors ton téléphone, on va discuter avec Siri, on va lui poser des questions sur le cloud.
Tu habites où, Siri ?
Où que vous soyez, je m'y trouve.
C'est quoi le cloud ?
C'est une jolie masse blanche molotonée qui fait parfois un bruit de fusée.
Bon, et alors ce cloud, il se situe où ? Est-ce que vous savez, cette maison de Siri ?
De grandes bases d'informations, de stockage, je sais pas vraiment en fait exactement ce que c'est.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur ce cloud ?
C'est pas facile comme question. Bah, c'est le nuage, donc c'est en fin de compte un certain nombre d'équipements techniques plutôt importants. Hein. Ça peut être des bâtiments très importants, comme une espèce d'énorme hangar. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'ordinateurs et qui contiennent les vidéos dont on a parlé, Siri, Amazon, les moteurs de recherche de Google. Alors, c'est pas toujours dans le même bâtiment. Et puis, tous les professionnels qui utilisent de l'informatique et de plus en plus. pas dans des serveurs dans les bâtiments de l'entreprise, mais justement dans ces data centers.
Ouais, donc ça n'a rien d'un nuage virtuel en fait.
Ah non, c'est tout à fait terre à terre. On n'a pas encore réussi à les monter dans les nuages. Je pense que ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais c'est l'idée que le traitement, il est plus localisé. Il est quelque part, et ce quelque part, on n'a pas besoin de le connaître. Il est souvent assez difficile de le localiser. Et donc, on a imaginé cette image, qui, à mon avis, est assez bonne, de dire c'est comme si c'était dans les nuages. C'est au-dessus, c'est ailleurs.
Vous saviez ça? Que c'était des grands entrepôts avec des dizaines de milliers d'ordinateurs, en fait, le cloud?
Pas du tout.
Ça vous étonne?
Ça m'étonne, oui. Non, je n'imaginais pas que c'était un vrai nuage qui volait et qui donnait des informations, tout ça. Donc, je ne suis pas étonnée dans le fait que c'est des ordinateurs. Mais effectivement, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être.
Peut-être qu'on peut regarder sur Internet s'il y a dans Google Images des photos de ce que c'est qu'un data center.
Ouais.
Comme ça, vous allez voir. On va taper data center dans Google Images.
Voilà.
On dirait des choses dans les films. Vous savez, quand il faut que les espèces d'espions aillent récupérer des informations, il y en a de grands entrepôts comme ça, où il y a plein d'ordinateurs, il faut qu'ils déconnectent des trucs et tout.
Voilà, c'est ça.
My
name's Electricity.
Je me trouve dans le 12e arrondissement de Paris, devant un immeuble, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des gens qui rentrent et qui sortent avec des poussettes, des enfants, un petit jardin, des petits oiseaux. Et je suis là devant un bâtiment, le bâtiment de la société Acropolis. Et je suis accueillie par Samir Kolelat, qui est le président d'Acropolis. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que cette entreprise?
Alors, nous sommes une entreprise de cloud dans laquelle nous allons stocker des informations informatiques pour les entreprises et quelques particuliers, et on va leur faire la gestion des services hébergés.
D'accord.
Dans un data center.
Mais alors, c'est bizarre parce que moi, je m'attendais à un immense hangar au milieu de la banlieue, etc. Et en fait, on est en plein Paris.
Évidemment, et on est comme les banques. Moins on nous voit de l'extérieur, moins on court des risques d'attaque.
Alors allons-y, on va peut-être rentrer.
La sécurité est très importante. Alors pour rentrer, d'abord, on va traverser un premier sas.
Je vous suis.
Avec un badge.
Donc on rentre.
Et dès maintenant, avant de rentrer, nous sommes déjà filmés. Donc gardez le sourire. Voilà. Et là, on va se diriger dans le premier data center dans lequel il y a un cloud de messagerie unifiée, de logiciels applicatifs et d'unités de stockage d'informations informatiques pour ceux qui désirent utiliser ces logiciels ou ces unités de stockage.
Alors on va un petit peu décrire, donc nous sommes dans une grande pièce.
Ici il y a deux cool corridors, le cool corridor c'est un corridor dans lequel il y a de l'air frais qui monte et qui est expulsé pour refroidir les machines que vous voyez d'un côté et de l'autre de ce corridor.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de refroidir les machines?
Alors les machines chauffent parce qu'il y a de l'électricité, les composants eux-mêmes, comme ce sont des circuits imprimés, chauffent, il faut les refroidir et les maintenir à température, parce que si la température monte beaucoup, ça risque de s'enflammer. Et c'est pourquoi les entreprises aujourd'hui viennent chez nous, pour éviter aussi d'acheter une climatisation qui est dans la petite salle informatique qu'ils avaient. Ici, ils vont accéder à tous ces services sans y investir.
L'électricité ici, c'est quelque chose d'extrêmement important alors.
Bien sûr, c'est l'élément principal pour la machine. C'est le gasoil de la voiture. L'électricité aujourd'hui, c'est la source d'énergie qui fait tourner tout ça. Sans électricité, on ne peut pas vivre.
Alors, on va peut-être continuer la visite. On referme la double porte. Ici, on est dans une salle un peu similaire à la première, sauf que elle est vide.
Et bien là, on vient juste de l'installer parce que le cloud a un taux de croissance de plus de 20% par an. Les entreprises sont en train de faire appel de plus en plus à des services qui sont dans le nuage, notamment la dématérialisation.
Vous me disiez tout à l'heure que finalement, un data center, c'était un peu comme une banque. Pourquoi?
Parce que le prix de l'information aujourd'hui est aussi cher que le prix de l'argent.
C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'on met son argent à la banque plutôt que de le mettre sous son matelas, on met ses informations dans un data center plutôt que de le garder dans son ordinateur.
Il vaut mieux parce que les bas de laine aujourd'hui ou l'argent dans les matelas, ça n'existe plus.
Merci. le salon du cloud et du data center. Donc, ce salon regroupe tous les acteurs du stockage de données numériques, qui sont donc des données virtuelles, mais ce salon est très concret, il y a beaucoup de monde. Donc, on va essayer de voir si ces gens sont un petit peu sensibles à la question de l'impact énergétique de l'Internet.
Bonjour, je suis Emmanuel Bourg, le directeur de la société Rentload, qui travaille dans les tests des data centers.
Il y a beaucoup de data centers en France, dans le monde.
Dans le monde, on estime à ce qu'il y a à peu près plus de 10 000 data centers. En France, des gros data centers, il y en a 150. Aujourd'hui, on est de plus en plus lié à ces infrastructures, puisque les communications mail, les communications audio, les communications visuelles sur YouTube, voire même parfois la télévision aujourd'hui, passent par des serveurs et donc par des data centers.
Oui, donc il y a un besoin absolument énorme de ces data centers, étant donné la consommation qu'on fait aujourd'hui d'Internet et de télécommunications.
Et ce besoin est accru par deux choses. Il est accru par la tendance globale des consommateurs. Les gens aujourd'hui préfèrent utiliser des applicatifs qui sont stockés ailleurs que chez eux. C'est ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire que les gens utilisent à la demande des applicatifs, par exemple une boîte mail, un logiciel, plutôt que l'avoir stocké sur leur serveur ou sur leur ordinateur, vont directement y accéder dans les data centers, par exemple de Microsoft pour Office.
Donc vous êtes en train de m'expliquer que toutes les données qu'on échange tous les jours, sans y réfléchir, le coup de fil à maman, le texto pour dire j'arrive, achète du pain, le mail avec la pièce jointe envoyée à son boss, tout ça, ce sont des données qui vont donc transiter par ces data centers. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en termes d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est très énergivore.
Alors pour parler de données un peu techniques et en termes d'électrique, un data center, c'est souvent plusieurs mégawatts. Alors plusieurs mégawatts, ça veut dire quoi? Ça ne parle pas souvent aux gens. Un data center, par exemple, de 10 000 m², c'est l'équivalent en consommation d'une ville de 50 000 habitants.
C'est énorme.
C'est gigantesque.
Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui gèrent des data centers se posent cette question de l'énergie? Est-ce qu'on commence à avoir une prise de conscience de l'aspect environnemental de ça?
Alors, il faut être honnête. Aujourd'hui, si les opérateurs de data centers sont motivés par ces questions, c'est surtout pour des raisons financières. Et donc, ce que cherchent les opérateurs, c'est à réduire, non pas pour être souvent plus green, mais d'abord pour réduire leurs coûts financiers. Et donc, ils vont investir dans des équipements qui seront moins énergivores, moins consommateurs en énergie.
Il existe aujourd'hui des data centers en France ou en Europe ou dans le monde qui fonctionnent avec de l'énergie renouvelable?
Alors, il en existe, en effet. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des data centers, notamment de Google en Belgique, fonctionnent en partie avec des éoliennes. Mais il faut être honnête, ça reste de l'ordre de l'exception aujourd'hui, parce que ce sont des investissements très coûteux et ça demande une mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les acteurs du data center, mais surtout de la collectivité autour. On the cloud of a knowing,
my world seems open. C'est pas du vent. Every satellite up here is watching. Le magazine de l'environnement. But I was here from the very start. Sur RFI. Trying to find a way
to your heart. Est-ce que toute la pollution qui est générée par Internet, elle vient que de ces data centers hein?
Donc ça, c'est des points de pollution en termes de points de consommation électrique qui sont très très forts. Hein, si on faisait l'intensité lumineuse, par exemple, en fonction d'eux, il y aurait des tout petits points devant un ordinateur ou un smartphone. Et puis, il y aurait un énorme point sur un data center. Mais en même temps, les petits points, il n'y en aurait pas qu'un. Il y aurait 200 points de data center, ce qu'on vient de dire, et il y aurait 120 millions en France de points plus ou moins petits, plus tous les points qui permettent de relier ces gros data centers à tous ces terminaux, puisqu'il y a plein de matériel, de fibres optiques, de fils de cuivre, tout ça, c'est alimenté électriquement, et tout ça, ça consomme énormément.
Nous sommes au CNRS à Paris.
Frédéric Bordage, greenIT.fr. J'ai une activité de conseil dans le domaine du numérique durable. Donc c'est la rencontre entre le numérique et le développement durable. Le discours qu'on entend partout sur Internet, et c'est son empreinte environnementale, on l'entend surtout sur l'alimentation en électrique des data centers qui regroupent tous les serveurs du web. Et en fait, on oublie qu'il y a deux autres tiers, il y a le réseau qui transporte les données, et il y a l'internaute au bout du réseau. Et en fait, quand on regarde l'empreinte, qu'on regarde sur le cycle de vie, la fabrication de tout ça, donc les bâtiments, les millions de kilomètres de câbles optiques, de fils de téléphoniques, etc., les box ADSL, les ordinateurs des internautes, etc., on se rend compte que l'empreinte environnementale globale, les différents impacts, sont surtout concentrés chez l'internaute. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a 200 terminaux connectés du côté des internautes pour un serveur du côté des data centers. Et donc fabriquer 200 équipements, donc 200 smartphones ou 200 ordinateurs, ou fabriquer un serveur, ça ne va forcément pas avoir les mêmes impacts environnementaux en termes d'épuisement de ressources, en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution diverses et variées. On parle peu de cette problématique parce qu'en fait, on utilise des mots-clés qui sont mal associés comme virtuel, comme immatériel, comme dématérialisation quand on parle du numérique. Alors qu'en fait, quand vous dématérialisez un document papier, qu'il vous le mettez sous la forme d'octets. Ces octets sont stockés sur des disques durs, manipulés à travers des claviers, donc on dématérialise rien du tout.
Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment pensé.
Est-ce que c'est des choses dont vous aviez conscience, hein ?
Pas du tout. Du tout. Mais je pense que c'est vraiment pas un truc dont les jeunes, en tout cas, de notre âge, se soucient vraiment. On se dit pas, attends, je vais aller regarder où sont stockées mes informations pour voir comment ça marche. Si il suffit d'un petit truc pour que ça consomme moins, pollue moins, je le ferai, je pense. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression qu'on parle de solutions évidentes.
Il s'agit de vous et non de moi.
Lumila a raison de s'interroger et des solutions. Françoise Berthoux, ingénieure de recherche au CNRS et écologue du numérique, nous en propose quelques-unes.
Alors, il y a plein de petites choses que les utilisateurs peuvent faire et qui ne font pas essentiellement par méconnaissance, en fait. Par exemple, moi, dans mon environnement, je vois beaucoup de personnes, quand elles veulent aller sur un site web, même un site très connu, hein, même leur propre entreprise, au lieu de taper le nom du site web dans la petite fenêtre qui permet de le faire, elles le tapent dans Google. Et du coup, ça fait une requête à Google, etc. Donc ça, typiquement, ça surconsomme des ressources complètement inutilement. Après, l'autre chose qui me semble évidente, c'est de réduire les données qu'ils ont sur le cloud, sur Internet. Alors, je vais utiliser une image pour ça, hein. Quand vous êtes chez vous, vous utilisez des tas de ressources, vous avez des tas d'activités, puis vous remplissez votre poubelle au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que vous n'utilisez plus, ou alors il y a des choses qui sont stockées dans le garage ou dans le grenier, et puis à un moment donné, tous les 5 ans, vous vous dites, bon là, quand même, là, faut que je sorte tout ça, là, c'est plus possible. Bon. Et donc, un truc que peuvent faire les utilisateurs, eh ben, c'est assez bête, hein, mais c'est de jeter réellement à la poubelle les choses qu'ils n'utilisent plus, hein, les gigas et les gigas de données qu'on a tous, hein, parce que maintenant, la moindre photo, ça prend une place phénoménale, et puis on les oublie parce qu'on pense à autre chose, et puis on n'a pas les limites de notre grenier qui nous disent, non là, il faut arrêter.
Ou de les stocker sur un disque dur externe qui reste pas branché et qu'on va juste brancher le jour où on aura besoin de récupérer ces données-là, non ?
Oui, complètement, parce qu'effectivement, le disque dur externe, contrairement au cloud, il ne consomme pas quand on ne le branche pas.
Il y a quand même en partie des prises de conscience. Et puis il y a une évolution technologique naturelle presque, hein, qui est que les processeurs sont de plus en plus gravés. Hein, donc la manière d'écrire dessus est de plus en plus fine. Et du coup, par voie de conséquence, la performance est meilleure. Et la consommation est très fortement diminuée. Si on avait un smartphone avec les technologies de gravure qu'on avait au temps des premiers mobiles, il faudrait une batterie de voiture avec, quoi. C'est une image. Mais je pense que d'ailleurs, sans doute que mon image n'est pas bonne, c'est plus que ça. Donc il y a des gains considérables qui ont été faits. Et ça continue, c'est pas fini. Et donc on va y arriver.
Mais ce n'est pas parce que ça s'améliore qu'il ne faut pas être vigilant. C'était un reportage de Caroline Langlois réalisé par François Porcheron. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous irons au Liban où la gestion des déchets inquiète les scientifiques. À tout de suite.